l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Eh bien, bonjour à tous. Nous revoilà pour un petit trek autour de la solidarité internationale, puisque vous le savez que grâce à ce trek-là, nous voyageons beaucoup toutes les semaines. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Nazaire Bambi, qui est originaire du Congo-Brazzaville. Alors, vous savez qu'il y a deux Congos, et lui, c'est le Congo-Brazzaville. Donc, bonjour Nazaire.
Bonjour, bonjour Marie-Claude.
Tu vas bien ?
Je vais bien, merci.
D'accord.
Et toi-même ?
Et ça va ? Tu as des bonnes nouvelles du pays ?
Excellente, excellente. Tout le monde se porte bien, surtout la famille. Hein.
Oui.
C'est le plus important
surtout
d'abord.
La famille, oui. Ouais. En plus, si on parle avec un Africain et qu'on ne parle pas de la famille, ce n'est pas la peine.
Ah, non.
D'accord.
La famille d'abord.
La famille d'abord. Donc, Nazaire, tu viens de ce Congo-là. Tu peux nous dire en deux mots, là, pour peut-être les gens qui ne connaîtraient pas, faire la différence entre les deux Congos ?
Voilà.
Parce qu'il
y en alors,
a deux, hein.
Oui, effectivement, il y a deux Congos. Il y a le Congo Brazzaville, qui est un des Congos. Et l'autre Congo, c'est le Congo démocratique, qu'on appelle la République démocratique du Congo, qui est la RDC. Alors, les deux Congos sont séparés par un fleuve, qui est le fleuve Congo. À savoir que le fleuve Congo est le deuxième fleuve le plus grand du monde après l'Amazonie.
Après l'Amazonie, mais c'est bien de le rappeler ça aussi.
C'est dire que le bassin du Congo est un bassin important pour le climat, pour la conservation de la forêt, de la nature, de la flore, tout ce qu'il y a. C'est un bassin important. D'ailleurs, quand il y a eu des sommets à Paris ou ailleurs, ces deux bassins, que ce soit le bassin de l'Amazonie et le bassin du Congo, sont des bassins qui sont scrutés chaque jour parce que c'est très important pour la planète.
Tout à fait, pour la planète.
Alors, donc, ces deux pays sont différents. Le Congo-Brazzaville a été colonisé par la France et le Congo démocratique, la RDC, a été colonisé par la Belgique. Alors, le Congo-Brazzaville est le plus petit par rapport au Congo démocratique, parce que le Congo-Brazzaville, il fait 342 000 km², hein, tandis que lui, c'est 10 fois plus, peut-être même 20 fois plus que le Congo-Brazzaville. Alors, ça a été aussi, il faut rappeler que Brazzaville, qui est la capitale du Congo-Brazzaville, a été la capitale de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale.
C'est bien de le rappeler. On doit se souvenir de ça aussi.
Exactement.
Ouais.
Donc, le général de Gaulle a fait donc ce voyage-là et a proclamé Brazzaville comme capitale de la France libre.
De la France libre.
Pendant que la France était occupée.
Et donc, Brazzaville. Alors, moi, ce que j'ai toujours entendu dire par notamment mes amis congolais, c'est que ce qui est quand même assez rigolo, c'est que les deux capitales se font face. Pratiquement,
exactement.
Qu'on peut voir l'une et l'autre.
C'est
vous pouvez le voir à travers le fleuve, justement.
Exactement, exactement. C'est bien de le dire, parce que Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales du monde les plus rapprochées.
Voilà.
Il n'y a pas dans le monde des pays qui ont des capitales aussi proches.
Aussi proches.
Voilà, donc Brazzaville et Kinshasa se regardent. Quand on est à Brazzaville, on voit les lumières, on voit les véhicules même, et parfois même les personnes qui se déplacent de l'autre côté, donc du côté de Kinshasa. Et de Kinshasa, effectivement, on voit aussi les lumières, les bâtisses qui sont du côté de Brazzaville. Donc vraiment,
on peut se faire coucou, quoi.
Ah, absolument, absolument, absolument.
C'est vrai que ça, c'est unique aussi.
Voilà,
hein,
c'est vraiment spécial. C'est les seules capitales qui sont vraiment très, très, très rapprochées.
D'accord. Ouais. Et donc ce pays, tu y as grandi, explique-moi un petit peu ton origine. Là,
alors,
bien.
Moi
où
je
on
suis...
vient et où on va après.
Exactement. Alors, Brazzaville, moi j'ai vécu donc, jusqu'à l'âge de 20 ans, 24 ans, au Congo. Je suis né dans un petit bourg, on pourrait dire, qu'on appelle Ngwedi. C'est une petite ville qui a été créée par des missionnaires suédois.
Oui.
Ils y ont créé des écoles, des dispensaires et une maternité dans laquelle je suis né. Mon père étant évangéliste, et donc, bien qu'on n'était pas à Ngwedi directement, on était à 10 km de là, ma mère a dû faire le chemin de nuit, étant enceinte, pour aller accoucher. Bref, je suis née dans cette maternité. Et après, j'ai fait mes études dans le petit village de Ndiba, qui est toujours dans le même district, près de Bouanza, donc dans la Bouanza, dans la région de la Bouanza. Et là-bas, j'ai fait donc mes deux premières années dans une école catholique. C'est la seule école qui était dans le village. Mmh. Et figurez-vous que cette école était dans l'église catholique même.
Ah oui, carrément.
Voilà. Et donc après, j'ai fait la troisième année, qui est le CE1. Je l'ai fait à 10 km, voire 15 km de là où on vivait. Mmh. Et donc j'y allais, j'ai vécu là-bas, j'ai fait une année là-bas. Puis après, selon les affectations de mon père, on est allé à Kimbedi. Là, j'ai fait le CE2 et puis j'ai fait le CM1 à l'UTT, qui est le point de chute, parce que la voie ferrée, il y a une voie ferrée qui part de Brazzaville à Pointe-Noire, qui passe par l'UTT. Et donc, de là, j'ai fait cette année. Et puis après, j'ai fait tout mon collège à Madingou, qui était la capitale, qui est encore la capitale de la région de la Bouanza. Donc, j'ai étudié là-bas, j'ai fait tout mon collège là-bas. Et de là, je suis allé à Brazzaville, parce qu'il n'y avait de lycée nulle part ailleurs dans le temps qu'à Brazzaville, dans la capitale. Donc, j'ai fait tout mon lycée à Brazzaville, dans un lycée aussi célèbre et reconnu, dit Emery Patrice Lumumba, du nom de ce leader de l'autre côté
du Congo,
de la RDC.
Ah ouais. C'était bien
donc,
choisi
voilà.
Quand même.
Donc, j'étais là et j'étais à quelques pas de la résidence du président de la République, dans le temps qui s'appelait Marie Ngouabi, qui malheureusement a été assassinée en 1977. Donc, j'ai fait toutes mes études dans ce lycée, puis des études littéraires. J'ai fait des études, j'ai fait le bac A4, qui n'existe plus aujourd'hui, puisqu'on a tout réformé partout. Donc, je suis littéraire d'origine. Et après, je suis allé à l'université Marie Ngouabi, où j'ai fait des études de droit. Et j'ai fait toutes mes études jusqu'à la licence. Donc, à la licence, j'ai eu ma licence de droit public. Puis, j'ai passé une année qu'on disait une année de service national, qui correspondait en fait à aller travailler pour le compte de l'État, dans un service ou dans un autre. Et moi, j'ai enseigné donc dans un lycée qui était proche de l'université. Comme j'étais au littéraire, que j'avais des bonnes compétences en anglais, donc j'ai enseigné l'anglais au lycée pendant un an. Et l'année suivante, j'ai eu une bourse d'État qui m'a envoyé donc venir étudier ici en France. Donc j'ai fait toutes mes études ici à Montpellier.
À Montpellier.
À l'université de Montpellier. Montpellier, voilà. Ouais. Donc j'ai fait la fac de 3, j'ai fait toutes mes études ici. J'ai ainsi eu l'occasion de connaître le premier, l'ancien, enfin avant que Georges Frêche ne devienne maire, j'ai connu François Delmas.
Oui,
C'était sa dernière année. Quand je suis arrivé ici. Puis après, j'ai connu tous les mandats de Georges Frêche, qui plus est, a été mon professeur d'histoire du droit à la faculté de droit.
Il paraît qu'il était passionnant.
Il était passionnant.
Les gens se bousculaient pour...
Absolument, absolument. Et il avait une façon d'enseigner qui était différente des autres enseignants. Il ne venait pas vous faire des cours magistraux, etc., etc. L'important pour lui, c'était que nous saisissions ce qu'il nous disait et que nous sachions parler en public avec liberté. Voilà, c'était pas à rabâcher des choses, mais à voir la quintessence de ce qu'il y avait dans ce qu'on avait entendu et rendre des choses avec nos capacités, nos connaissances, des choses différentes de ce qui était écrit déjà dans les livres.
Moi, j'ai un souvenir, je te coupe la parole, de M. Frêche, c'était pour l'inauguration de Pharmaciens sans frontières, c'était vraiment des gens avec qui j'allais souvent m'approvisionner pour repartir.
Une belle institution.
Au pays, oui. Et donc, quand ils ont inauguré leurs nouveaux locaux, il y a eu une inauguration, et franchement, c'était saoulant, quoi. Les gens parlaient, je m'enquiquinais. J'ai failli partir. Et puis j'ai bien fait de pas partir parce qu'est arrivé Monsieur Fraîche. Et alors Georges Fraîche, il nous a emmenés. On est parti de Montpellier avec les apothicaires de Montpellier,
exactement,
qui étaient les apothicaires qui accompagnaient toutes les croisades qui faisaient le tour du bassin méditerranéen. On est passé un peu par tous les pays. On a voyagé et c'est vrai qu'on s'est pas ennuyé une minute. Après je suis parti parce que voilà, ça recommençait. Mais pour dire que c'est vrai que c'est et qu'on m'a dit que
c'était tellement prenant, oui, quand il parlait, quand il prenait la parole, c'est captivant. C'est quelqu'un qui était très érudit, qui avait vraiment de grandes connaissances. Et quand il abordait un sujet, il l'abordait dans toutes les dimensions vraiment de ce sujet. Et en droit, on se régalait. On se régalait. Je n'ai pas vu une seule fois, sauf pour maladie peut-être pour certains, pas une seule fois qu'à son cours, qu'il y ait des étudiants qui manquaient. On était vraiment captivés. Et moi, je l'ai suivi. J'ai vu la transformation de Montpellier avec Georges Fraîche. Je l'ai vu construire Antigone, j'ai vu... Là, Antigone, c'était des vignes.
C'était des vignes, oui, oui. Puis c'était des terrains militaires aussi.
Absolument. Donc, Montpellier, il a transformé Montpellier. Et quand il est arrivé, effectivement, son ambition, c'était de changer, de transformer et de faire de Montpellier une véritable capitale. Et c'est ce qu'il a fait et qu'il a réalisé. Bien entendu, il y a eu des gens qui ont protesté, des gens toujours qui étaient... toujours pas d'accord avec lui, en disant qu'il était mégalo. Aujourd'hui, tout le monde l'encense, dit « Oh, mon Georges Fraîche a fait des choses. »
Voilà, il était mégalo, mais ça servait, quoi. C'était utile.
Absolument. Aujourd'hui, nous allons avoir bientôt la cinquième ligne, mais c'est lui qui a initié l'histoire du tram. Et des gens viennent de partout, du Brésil, du Japon, de partout, pour venir voir quand il a inauguré la première ligne. Attendez, à Montpellier, ça n'arrêtait pas les délégations qui venaient pour visiter notre ville et voir notre tramway. Et ils vont continuer à venir, d'ailleurs.
Donc, nous avons un vrai Montpellierin avec nous, chers
auditeurs.
Absolument. Voilà. Et donc, voilà. Donc, on a un peu le parcours, le cursus. Comment du Congo, on peut arriver à Montpellier. Comment on peut y faire sa vie. Comment on peut avoir des souvenirs. Comment on peut... transmettre l'histoire de Montpellier aussi.
Exactement.
Merci Nasser. Voilà. Et donc, depuis, je suppose que tu t'es investi un petit peu dans des associations, dans des choses comme ça. D'abord, est-ce que combien de fois tu es retourné souvent au pays ou pas trop?
Alors, au Congo, depuis que je suis ici, ça fait plus d'une quarantaine d'années que je suis en France, et j'y suis reparti en tout pour tout 4 fois.
Oui, d'accord.
4 fois. D'abord parce que nous avions la possibilité en tant qu'étudiant, quand... les choses marchaient encore bien, quand le Congo était encore florissant, et que c'était encore un peu mieux géré qu'aujourd'hui, et ben nous avions droit, au bout de 3 ans, à une bourse, plutôt à un billet de voyage, de vacances. Donc, j'ai pu partir pour mon premier voyage donc, au Congo comme ça. Et puis, je suis reparti une dizaine d'années plus tard. Entre-temps, mon père était décédé, donc j'avais à cœur d'aller voir au moins sa tombe. Et aller me recueillir sur sa tombe. Donc, je suis reparti une deuxième fois. Une troisième fois, je suis reparti parce qu'il fallait que j'aille voir un peu la famille. Ma mère vieillissait. Et donc, voilà, je suis allé la voir. Et à cette occasion, justement, ma mère me dit, bon, bah, écoute, si on ne se revoit pas, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu es venu, tu as fait le voyage, on s'est vu et tout ira bien. Effectivement, c'était notre dernière fois qu'on se voyait.
C'est magnifique hein, d'avoir quand même des parents, une maman comme ça. Hein,
exactement.
Qui t'apaise et qui t'enlève éventuellement la culpabilité.
Voilà, qui m'a rassuré que ce n'était pas grave si on ne se revoyait pas. Et que, voilà. Et lorsqu'elle est décédée, j'ai dû repartir donc, en 2017, donc il y a quelques années de ça, et pour aller l'accompagner à sa dernière demeure. Voilà,
D'accord, donc tu y vas régulièrement quand même.
Ouais.
Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire comment tu trouves, là, tu as trouvé un peu, bon, rapidement comme ça, tout politique, mais c'est plutôt, un peu conjoncturel. Comment ça a évolué un peu le pays? Comment tu l'as trouvé, toi? Parce que, bon, c'est vrai qu'on sait bien qu'il n'y a pas... Il y a peu de pays africains qui sont actuellement florissants, mais si tant est que par ailleurs aussi on soit florissant déjà, comment tu trouves l'évolution un petit peu qui s'est faite dans ces dernières années que tu as pu constater, toi?
Ben, il y a peut-être des choses positives en ce sens que, bon, on a construit, ils ont construit une voie carrossable qui part de la capitale à Pointe-Noire et qui va jusque maintenant dans le nord du pays. Donc ça permet aux gens maintenant de se déplacer parce que je me souviens que l'avant-dernier voyage que j'ai fait, pour faire un déplacement d'une partie à une autre sur des centaines de kilomètres, ça me prenait une journée entière.
Oui, c'est ça, ouais.
Voilà, de Pointe-Noire à Brazzaville, ça se faisait en une journée. Mais là, ça me prenait une journée. Il fallait que je prenne un train, que je prenne un avion. Donc maintenant, avec cette voie, les gens circulent. Il y a de l'amélioration de ce côté-là. Cependant, lorsqu'on voit la situation sociale du pays, les choses se sont dégradées. C'est un peu difficile pour tous. Et je vois que les conditions de vie des gens, y a des gens qui n'ont pas d'emploi, des gens qui ont étudié qui n'ont pas d'emploi. Et donc, c'est un peu difficile par rapport à ce que j'ai laissé il y a des années. Il y a comme une sorte de dégradation de la situation, en espérant qu'il y aura un sursaut qui va permettre à ce que les choses aillent mieux.
D'accord, parce que quand même, il y a des richesses aussi.
C'est un grand pays,
il y a des richesses.
Il y a des
richesses. On a parlé rien que de la forêt, déjà, c'est une richesse en soi aussi.
Tout à fait, tout à fait.
À tout niveau, à quelques niveaux que ce soit.
Oui. Le Congo est un pays qui est riche. Le district d'où je viens est bourré, s'il faut dire, de minerais. On a du plomb, on a du zinc, on a même, je pense qu'on doit avoir un peu d'uranium, et on a de l'or. Dans le district, quand j'arrive à 10 km de mon village, il y a des montagnes où il y a des ressources comme ça, minières, qui malheureusement sont exploitées et ne bénéficient pas directement aux populations.
Et oui, c'est bien le problème.
C'est un peu ça le souci. On a du pétrole aussi, le Congo a du pétrole. Mais le pétrole ne bénéficie pas, malheureusement, aux populations, parce que c'est exploité par des compagnies étrangères, et que même là où le pétrole est exploité, le Congolais n'a pas accès à cette zone-là. On ne sait même pas combien de barils sont exploités par jour. Donc, si le président l'a avoué, c'est dire que c'est l'inconnu total.
C'est bien un des drames de l'Afrique.
Voilà, il y a des ressources comme ça qui ne sont pas à la disposition de tout le monde.
Pas plus aux États, à part ceux qui se servent au passage, les dominants, quoi. Mais
tout
sinon, voilà, c'est bien le problème aussi.
Voilà.
C'est un peu dommage.
Voilà.
En tout cas, moi, il y a une chose que j'aimerais bien, je vous le dis à tous, si j'y viens un jour, vous le saurez, c'est de voir quand même ces deux capitales aussi rapprochées et pouvoir faire coucou à quelqu'un de mes amis qui soit de l'autre côté, dans l'autre capitale.
En tout cas, tu es la bienvenue déjà à Brazzaville, quand tu voudras. Je sais que je n'y vais pas souvent, mais quand tu voudras, en tout cas, ce sera avec un plaisir de t'amener au bord du fleuve, de pouvoir siroter de la noix de coco au bord de l'eau de noix de coco au bord du fleuve. Et c'est un moment que j'apprécierais beaucoup, j'allais beaucoup. Et d'ailleurs, comme j'écris des poèmes, certains poèmes sont inspirés parce qu'ils ont été écrits au bord du fleuve.
Au bord du fleuve.
Voilà.
En tout cas, on t'attendra sûrement prochainement pour nous lire aussi de quelques-uns de tes poèmes et puis nous parler de toi peut-être un peu plus.
Avec
parce que là, là, on va faire une petite pause musicale. Donc, c'est toi qui nous as choisi la musique. Hein. C'est une musique.
Alors, c'est la musique congolaise et c'est la musique de mon ethnie à moi. D'où je viens, et cette musique, c'est une musique qui est dansée dans tout le pays, qui s'appelle le Ndara, et on la danse, on la chante dans les moments de mariage, dans les décès, dans les moments de fiançailles. C'est une musique très joyeuse, et quel que soit le morceau que nous allons écouter, je pourrais peut-être vous donner la quintessence de ce qui aura été dit.
Voilà.
Mais
d'accord,
en tout cas, on peut écouter déjà un morceau.
Vous écoutez, c'est le Ndara, alors, c'est
Ndara,
ça. Voilà. Ndara.
Voilà.
Voilà. À tout à l'heure.
Ya no hay que ir con un título vile, bazaba mukonzi ninki bazaba mbongi ninki
Eh bien voilà, donc nous sommes toujours en compagnie de Nazer Bambi, donc qui nous a bien fait voyager en nous racontant son histoire, son chemin, et puis même qui nous a fait même voyager dans l'histoire de Montpellier, mes chers amis. Donc pour savoir que quand même, voilà, il y a des gens qui s'approprient l'histoire de la ville, et c'est bien, c'est un bonheur de savoir aussi qu'il y a des gens qui se sentent aussi d'ici, d'ailleurs, et d'ici aussi. Voilà, donc Nazer, nous revoilà à l'antenne. Donc on disait que tu parlais de ton ethnie, j'aimerais que tu la définisses ton ethnie là.
Alors c'est une ethnie qui se trouve au Congo-Brazzaville, qui a des ramifications quand même du côté Congo-démocratique.
Oui.
Puisque mon ethnie se trouve à la frontière, près de la frontière Congo, Congo-Brazza, Congo-démocratique. Et c'est les Dondo. Dondo. C'est une ethnie pacifique, très très pacifique, qui a la réputation d'avoir une très bonne éducation de ses enfants et particulièrement de ses filles. Ses filles sont des, même si les choses changent, sont des filles, pour ne pas dire qui sont bien éduquées, travailleuses et qui sont des femmes de foyer, s'il faut dire, qui sont vraiment appréciées. Et il se passe que il y a comme une sorte de désir de beaucoup de gens d'épouser des femmes de mon ethnie, en tout cas dans mon pays.
Dans ton pays, d'accord.
Voilà, donc,
on peut le dire aussi ici, s'il y en a qui cherchent des femmes
voilà.
bien éduquées, voilà, chercher une
badonde. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est des gens travailleurs, ce sont des gens très pacifiques, qui ont aussi la qualité d'être très généreux. Et ils reçoivent, et dans leur village, il y a souvent d'ailleurs, dans la plupart des villages des Dondo, il y a une sorte de petite bâtisse qui est souvent au centre du village ou à l'orée du village, et où les gens peuvent se retrouver, et il y a toujours à manger. Celui qui est étranger dans le village peut, effectivement, sans demander permission à qui que ce soit, se servir de ce qu'il trouve sur l'étal suspendu au-dessus du feu et se nourrir. Et...
Alors là, ce qui est sûr, Nazer, c'est que tu vas revenir nous raconter tout ça bien plus en détail, puisque aujourd'hui, on a un programme quand même et que tu dois aussi présenter
bien sûr.
La création de ton association. Mais c'est sûr que tu nous en parleras. Alors, moi, ça m'amuse, enfin, ça me fait clin d'œil, parce que finalement, au Burkina Faso, dont tout le monde sait que voilà, je suis quand même très proche depuis longtemps, là-bas, ce qu'on dit, alors tu dis voilà l'étranger, et là, on dit l'eau de l'étranger, c'est-à-dire que dans une calebasse, quand un étranger arrive, quel qu'il soit même du village voisin ou même, voilà, on donne l'eau de l'étranger.
Absolument.
Mais comme le Congo, comme nous l'a expliqué tout à l'heure Nazer, est plus riche, là-bas, il y a la maison avec aussi à manger.
Absolument.
Bon, au Burkina aussi, on apporte à manger. Mais je veux dire, ça dit quand même, ça dit bien quelque chose aussi de la situation des deux pays. On sait bien que le Burkina, c'est un pays très sahélien et très sec, donc voilà.
C'est ça.
Et alors que là, il y a des grandes forêts, il y a tout ce qu'il faut.
Exactement.
Bon, alors donc, tout à l'heure, on évoquait aussi, Nazer, je te demandais la situation de ce pays qui est immense et qui est très riche, avec des richesses de sous-sol, des richesses agricoles, des richesses végétales, etc. etc.
Et humaines aussi.
Voilà, voilà. Et tu me disais quand même que, bon, là-bas, c'est pas quand même formidable qu'il faudrait que se fassent des progrès. Alors j'aimerais bien que tu m'expliques comment est née ton association. D'abord tu l'as définie, tu la nommes et tu nous dis comment est née cette histoire-là.
Voilà. Alors mon association s'appelle Humanisme, Émergence africaine et développement. Avec un sigle qui part des lettres, hein, Humanisme donc le H, Émergence avec le E, Africaine avec le A et Développement avec le D. Donc, il fait un sigle HEAD. H-E-A-D.
La tête, quoi.
Voilà, la tête.
La tête en anglais, oui.
Absolument. Donc, alors, l'association est née d'un constat. Le constat, c'est que les conditions des personnes, notamment jeunes, parce que la population congolaise est à majorité jeune. À 75%, elle est vraiment jeune. Mmh. C'est entre des âges de plus petits jusqu'à 20 ans. Vraiment, on est à 75%. Donc, c'est une population jeune qui, malheureusement, pendant des années et longtemps, le Congo était scolarisé à 90%.
C'était énorme.
Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on est à moins de ça, moins de 50% de scolarisation.
Quelle dégringolade.
Voilà. Il y a une grande dégradation de la situation scolaire, de la scolarisation au Congo. Et même ceux qui sont scolarisés, notamment dans le domaine public, sont dans des établissements où il y a des classes d'enfants, de 100 élèves, 100 enfants qui n'ont pas de siège, tout ça. Les conditions ne sont pas réunies, en tout cas. Donc, un constat du côté scolaire. Du côté sanitaire, pareil, la situation est très, très difficile. Longtemps, l'État a pourvu aux soins de façon un peu plus ou moins gratuite, et les missions et autres, les missionnaires et autres. Et on s'est rendu compte que de plus en plus, quand on est malade, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas se faire soigner. Donc, il faut d'abord te présenter de l'argent, on te fait une ordonnance, et tu vas acheter tes médicaments et tu te fais soigner. Donc, ce besoin-là. L'autre côté qu'on a vu, c'est qu'effectivement, au niveau social, les conditions de vie des gens, les moyens diminués, les ressources ne s'étaient plus suffisantes pour les gens, donc les gens tombaient dans une sorte de pauvreté. Les gens qui mangeaient 3 repas par jour se retrouvent à ne prendre qu'un repas par jour, et encore.
Donc, oui, ça s'est vraiment détérioré.
Les choses se sont détériorées, on le voit dans les familles, donc c'est des choses qui sont difficiles. Alors, donc l'association est née de cette urgence-là, de cette urgence. Et donc on s'est dit, tiens, comment faire pour que les gens qui sont dans ces pays, particulièrement le Congo-Brazzaville, et notamment dans ma région d'origine, qu'on puisse faire quelque chose pour eux. Et donc, à l'origine, c'était vraiment l'humanitaire classique, où on récoltait des choses et puis qu'on pouvait envoyer. Et on a travaillé sur l'idée de se dire, tiens, c'est bien, mais il faut faire une sorte de démarche inclusive. Là, par exemple, pour prendre un exemple d'une école, si une école doit être réhabilitée ou construire une école, par exemple, nouvelle, nous mettons à contribution, d'abord, nous consultons les populations en leur disant, bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous avez besoin. Ils nous disent, ben, nous, notre école, regardez, on n'a pas de tableau banc, on n'a plus le tableau est en décrépitude, etc., etc., nous avons besoin de ces choses-là. Je dis, bon, d'accord, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté? Donc, ils peuvent dire, bon, ben tiens, on voit qu'il faut qu'on fasse des latrines, par exemple, des toilettes. Bon, nous allons faire des briques, nous avons des compétences de maçonnerie, donc on va contribuer, nous avons des charpentiers, etc., etc. Donc, voilà ce que nous appelons comme une sorte de démarche inclusive. Donc, action concertée, et de notre côté et de leur côté. Voilà. Et selon leurs besoins et selon leurs projets à eux. C'est des projets qu'on construit ensemble. On co-construit des projets. Et donc, voilà notre démarche. C'est comme ça que nous travaillons maintenant avec les populations. Voilà.
Oui, ce qui est intéressant, justement, je suis très sensibilisée à ça personnellement, c'est que en fait, on ne fait rien parce qu'on a décidé de le faire, façon colonisation, colon ou néocolon, mais on voit avec les populations, on les consulte. Alors, le fait d'avoir une expertise soi-même, c'est utile aussi.
Absolument.
Parce qu'on peut évaluer si ça semble correct ou s'il y a peut-être des choses à modifier ou à... Voilà, ou à transformer légèrement. Et en même temps, on agit avec le pays et pour le pays et dans l'esprit de ce qui est utile dans le pays.
Absolument.
Voilà.
Absolument.
C'est un échange complètement.
Absolument.
Dans une réciprocité.
Tout à fait.
Voilà.
C'est dans cet esprit qu'on travaille, en respectant aussi les autorités, aussi avec leur programme. Ils ont leur programme à eux. Mais on peut arriver à travailler en disant, bon, bah, écoutez, ça, on peut faire ça ensemble ou pas. Voilà.
D'accord. Et donc, là, il y a des gens sur place, là, par exemple?
Alors, il y a des gens donc, sur place, effectivement, qui sont comme des relais en même temps pour nous, ici. Lorsqu'on décide ou lorsqu'on s'est entendu sur un projet donné, donc il y a des gens qui sont des personnes relais, des personnes aussi sur place, qui suivent les choses, qui rendent compte, et ils disent, bon, voilà... tel projet qu'on a débuté, voilà où on en est. Et actuellement, avec les nouvelles technologies, Dieu merci,
oui,
on peut montrer l'évolution de ce qui se fait sur place via WhatsApp, via les visios, effectivement. Donc voilà, donc ça, c'est très bien.
Donc il y a un lien qui est quand même un peu mieux suivi que c'est ça, ce qu'on pouvait l'être dans le temps, même si avec beaucoup de bonne volonté, on y arrivait quand même aussi.
Oui, c'est vrai. C'est beaucoup plus long avant, ça a été un peu plus compliqué, effectivement.
D'accord.
Maintenant, c'est plus facile, on peut vite entrer en contact avec les gens sur place et pouvoir avoir les éléments.
D'accord. Et donc, entre autres, on a parlé de la santé.
Mm-hmm.
Vous êtes en contact avec des soignants, avec des hôpitaux,
Alors là, nous sommes en contact effectivement avec des soignants. Bon, généralement dans nos campagnes, ce sont des dispensaires.
Oui, oui.
Ce sont des dispensaires. Donc voilà, on est en contact avec eux, qui sont des soignants et qui nous disent voilà comment les choses avancent, quoi, et qui nous disent par exemple sur les pathologies sur lesquelles il faut travailler.
Mmh. Il y a une pathologie particulière qui pose problème chez vous?
En général, au Congo, c'est beaucoup plus comme c'est des zones forestières et des savanes, c'est beaucoup plus le palu.
Le palu, la dengue, non?
Le palu. Ah, la dengue n'est pas encore arrivée.
Ah, tant mieux pour vous.
Voilà, on n'a pas ça, mais le paludisme, c'est quand même assez endémique.
C'est vraiment endémique. Mais
heureusement, de ce côté-là, on utilise maintenant de plus en plus les plantes.
Voilà. Ça revient, hein,
Exactement, on revient
aux sources. Et tant mieux quand même aussi, parce que c'est, de toute façon, les gens se sont toujours soignés comme ça. Hein.
Voilà.
Voilà. Et donc, la santé, c'est ce qu'il dit dans ton topo, c'est que quand même, la santé est prioritaire pour là-bas. Hein.
Tout à fait.
Vous pouvez... Donc, je vois que vous avez vous occuper des scolaires aussi.
Des scolaires, oui, ça c'est très important parce que nous pensons que l'éducation est essentielle.
Mais oui, ce que tu disais, c'est qu'il y avait une altération
absolument.
C'est fou ça.
Un pays où les enfants ne sont pas scolarisés, c'est un pays qui va à sa perte.
Tout à fait. Autant on peut comprendre qu'un pays ait besoin effectivement de développer l'enseignement,
bien sûr,
parce qu'il vient de loin, il vient de la terre, etc. Mais autant après, quand il y a une infrastructure aussi riche et puis que tout à coup ça dégringole, c'est lamentable, quoi.
Tout à fait. Donc l'effort est fait sur ce plan-là pour que les enfants aient des connaissances, qu'ils puissent apprendre dans de bonnes conditions et que le développement aussi, pour avoir un bon développement, il faut que les gens aient des connaissances et des compétences.
Des compétences
voilà,
aussi.
Et voilà, c'est très important. D'accord. Et l'école, vraiment, est un élément essentiel. Autant la famille que l'école, c'est des éléments essentiels
pour une société. Voilà, c'est essentiel, qu'il y ait ce soutien-là, quoi.
Voilà.
Voilà, donc, et là, est-ce que de temps en temps, il y a des manifestations? Comment vous faites quoi? Vous faites des sensibilisations, des manifestations pour pouvoir récolter un peu des fonds?
Voilà, de temps en temps, effectivement, des petites manifestations, on peut faire des récoltes. Et on en profite d'ailleurs pour dire que s'ils veulent nous aider, que ce soit actuellement, par exemple, nous avons besoin... des manuels scolaires, parce que les enfants ont soif d'apprendre, ils ont soif et ils ont besoin de livres de tout genre d'ailleurs, que ce soit des bandes dessinées ou autres. Nous avons besoin aussi effectivement des habits aussi, on en récolte parce qu'effectivement on va dans les campagnes, il y a des familles qui sont un peu assez démunies, donc quand il y a des habits aussi on en récolte, des habits de bonne qualité. Voilà, et puis s'ils veulent nous aider aussi financièrement, nous sommes disposés.
Oui, bien sûr.
Voilà, nous sommes disposés, et surtout c'est ça, c'est très important. On peut avoir des choses, mais encore faut-il les envoyer. Et ça demande des sous.
Et c'est oui, et puis, je dirais que les finances aussi, quelquefois, ce qui est intéressant, c'est que quand ça peut être acheté sur place aussi, ça
c'est
fait
bon.
Travailler le commerce là-bas aussi.
Effectivement,
hein.
C'est ça que nous
faisons.
C'est un peu
la posture aussi qu'on doit avoir aussi. Hein.
Absolument. Mmh. Et souvent, dans les projets, quand on fait un projet, justement, on évalue quelles sont les choses qu'on peut acquérir sur place, qu'on peut se procurer sur place, de façon à ce que, à minimiser les coûts déjà, c'est très important, et à faire en sorte que l'on ne soit pas obligé de tout envoyer à partir d'ici, quoi. Voilà, que ce soit avec du matériau local aussi,
d'accord,
c'est important.
Donc, je vois aussi que vous êtes à la recherche aussi d'équipements sanitaires hospitaliers aussi.
Oui, tout à fait. Il y a de temps en temps, effectivement, des besoins comme ça, dans les villages, en fait, dans les dispensaires. C'est des équipements tout à fait simples. Par exemple, des PSBB, des éléments, des éléments aussi simples que ça, quoi, le vraiment le béaba, voilà.
Voilà, alors tu vas tout nous donner, c'est-à-dire le contact.
Voilà, le contact, alors c'est moi-même, le président, donc Nazaire Mbambi.
Donc, Nazaire Mbambi, oui.
Voilà, le numéro de téléphone, donc 06 77 56 84 00.
D'accord.
Voilà. Et le mail, vous pouvez aussi nous écrire à Nazaire, N-A-Z-A-I-R-E, point Mbambi, M-B-A-M-B-I, arrobase free.fr.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Entre Nazaire et Mbambi, il n'y a pas de tiret, il n'y a rien.
Il y a non, il y a un point simplement.
Il y a un point. Ah si, un point, d'accord.
Un point entre Nazaire
Mbambi.
Et Mbambi. Donc, Nazaire, comme Mbambi. La ville de Saint-Nazaire.
Oui, Mbambi.
Mbambi, M-B-A-M-B-I, arrobase free.fr.
D'accord.
Voilà.
Voilà.
Alors... Ne pas oublier le point entre Nazaire et Mbambi.
Oui, c'est ça, exactement.
Parce que sinon, ça ne passe pas.
Sinon, ça ne passera pas.
Non, non.
Voilà, donc vous pouvez toujours faire vos dons et puis vous tenir au courant de l'actualité de cette association qui s'appelle Aide Association.
Absolument.
Et que voilà, qui c'est tout un programme humanisme, émergence africaine et développement. Ouais. Donc le président vient de vous présenter le programme, un peu les objectifs. Donc c'est Nazaire Mbambi que j'ai eu le plaisir de recevoir aujourd'hui. Merci Nazaire.
Merci.
Et alors rapidement, un petit spot là, voilà, pas publicitaire, pour vous rappeler que ce dimanche 11 mai 2025, à 11h, il y aura lieu la cérémonie de la mémoire des victimes du génocide rwandais. Donc ça aura lieu au parc d'Arménie, à l'hôtel de ville. C'est un petit parc, il y a des stèles derrière la mairie de Montpellier, la mairie étant en place Georges Frêche, et ça sera en présence de Michael Delafosse, Claire Hart, vice-présidente de la métropole, et Marcel Cavanda, présidente d'Ibuka France aussi, et puis d'autres personnalités. Voilà, n'oubliez pas, donc, dimanche, 11 mai, à 11h, au parc d'Arménie, à l'hôtel de ville, à la cérémonie à la mémoire des victimes du massacre rwandais, du génocide. Voilà, bon, je vous dis au revoir à tous, et je vous dis à très bientôt, et puis encore merci, Nazaire, de ta participation.
C'est moi qui te remercie, Marie-Claude. Merci beaucoup, merci aux auditeurs. Merci. Au revoir.
Et merci à Léonie à la technique. J'allais l'oublier. Léonie, pourtant, si elle n'était pas là, on ne ferait rien.
Non,
merci Léonie.
Merci.
L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.